Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ground Control, le direct. Littérature et bière glacée.
Grande Fleur Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Fleur Café par Hugues Robert.
Bonsoir. Comme chaque semaine, le Grande Fleur Café essaye chaque fois que possible d'accompagner l'actualité du lieu Grande Control. Cette semaine, chez Grande Control, on se remet à écrire. Alors, se remettre à écrire, il y a évidemment plusieurs façons d'entendre ça. Il y a retrouver le sens de la lettre, de la correspondance, de prendre la plume ou plus exactement le clavier pour s'adresser à d'autres personnes. Il y a aussi la question de la reprise de l'écriture après quelque chose, et par exemple après un deuil. Et ça, c'est la semaine prochaine qu'on en parlera. Cette semaine, on va donc parler de correspondance d'écrivains, de produits hybrides de littérature que sont les correspondances privées qui deviennent de la littérature, et puis on dira un mot bien entendu sur des fictions épistolaires. Alors la correspondance, c'est vraiment quelque chose qui pourrait occuper 10 émissions comme celle-ci et un bon nombre de conférences. On va faire évidemment court et à partir de quelques exemples les plus savoureux possibles, à partir de livres qui sont en vente chez Ground Control ou chez Caribde à deux pas d'ici. Donc les correspondances d'écrivains. Effectivement, au moment de se remettre à écrire, on pourrait se dire, s'il y a bien un modèle parmi d'autres, c'est des écrivains qui échangent avec d'autres écrivains, avec des éditeurs, avec simplement des amis hein, parfois. Et il y a toute cette fascination qui fait que dans la correspondance d'écrivains, il se passe quelque chose, il se joue quelque chose. Alors on a quelques exemples, enfin les exemples sont très nombreux, je vais en prendre quatre qui sont assez savoureux. Le premier c'est Saint-Jean de Perse, donc le grand poète et ex-diplomate, qui est assez extraordinaire, sa correspondance est d'une incroyable richesse, mais ce qui est drôle en un sens, c'est qu'au fur et à mesure que le temps a passé, après que cette correspondance soit largement apparue, dans l'édition de la Pléiade qu'il a supervisé lui-même, ce qui était une première, hein, puisqu'il est entré dans la Pléiade de son vivant et qu'il a été, disons, très actif dans la réalisation de cette édition, on s'est aperçu, des années après, donc après la mort de Saint-Jean de Perse, que cette correspondance avait été extrêmement éditée, à la limite parfois de la supercherie littéraire, pour montrer ce qu'il voulait montrer et non pas exactement la réalité. Au point que parfois, il y a quelques lettres qui ont été, semble-t-il, inventées par lui, alors qu'ils sont magnifiques, qui sont très très intéressantes, mais effectivement qui laissent ce petit goût de qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Saint-Jean de Perse. Alors, on peut le mentionner tout de suite, la correspondance en fait, ou les correspondances d'un grand écrivain, c'est aussi un matériau pour propulser un imaginaire, et de très nombreux auteurs en fait s'appuie sur la correspondance d'un auteur plus ancien en fait pour en faire quelque chose. Et très récemment, à propos de la correspondance de Saint-Jean de Perse, vient de sortir l'excellent roman de Jérôme Baccelli, Ici ou là-bas, qui utilise le personnage de Saint-Jean de Perse, son destin singulier, le fait qu'il part donc déchu de ses droits par Vichy en 1941 pour rejoindre les États-Unis et qu'il ne rentrera en France que très tard, à la fin de sa vie, qu'il sera exilé volontaire bien après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y a Jérôme Baccelli qui nous brosse une enquête policière assez étonnante dans lequel se mêle un Saint-Jean de Perse donc des années 1940-1960 et puis une réalité tout à fait contemporaine où il est peut-être question d'espionnage économique, où il est peut-être question d'expatriation et de mondialisation, enfin quelque chose d'extrêmement savoureux. Alors, une deuxième correspondance totalement différente, c'est celle dont on a beaucoup parlé ces dernières années, entre Albert Camus et René Char. On parle de 200 lettres hein, qui donnent à voir et à penser une amitié, bien sûr, mais aussi une connivence profonde entre deux écrivains qui pourtant n'ont absolument pas produit des choses semblables. Hein, René Char dans la poésie, Albert Camus dans l'essai et dans le roman métaphysique ou à résonance métaphysique. Et pourtant, dans les échanges entre eux, tout au long de ces années, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une connivence intellectuelle, une connivence émotionnelle qui tient de l'amitié, bien entendu, mais qui tient aussi de bien autre chose. chose et vraiment d'un aspect intellectuel indéniable. Et cette correspondance a aussi donné lieu à des textes littéraires qui s'appuient sur elle. L'un des plus beaux que je recommande chaleureusement, c'est celui d'Emmanuel Ruben, qui s'appelle « Kaddish pour un orphelin célèbre et un marin inconnu ». Et qui passe au filtre des souvenirs et en s'appuyant donc sur la correspondance entre Albert Camus et René Char, la genèse en fait de la guerre d'Algérie et ce qu'on a appelé donc les événements avant que ça devienne la guerre d'Algérie. Une troisième correspondance là, qui vient tout juste d'être publiée chez Verdier il y a quelques semaines, c'est celle de Varlam Chalamov avec Alexandre Solzhenitsyn d'une part et avec Nadiejda Mandelstam d'autre part. C'est une correspondance qui est fascinante parce que Varlam Chalamov, quand il commence donc à écrire à Solzhenitsyn et à Nadiejda Mandelstam, donc la veuve d'Ossip Mandelstam, il vient de passer en fait très peu de temps en liberté entre 1929 et 1953. Il a été quasiment toujours soit en prison, soit au goulag, d'où il a tiré, lui, ses récits de la Kolyma, une œuvre extraordinaire, bien entendu, qu'il faut absolument lire si vous ne l'avez pas lu. Mais quand il sort, donc en 1953, il y a pour lui à la fois un enjeu de reprendre goût au monde, de retrouver en fait la vie littéraire qu'il connaissait avant 1929, alors que plus de 20 ans ont passé, bien entendu, et puis de saisir en se confrontant à d'autres, et en particulier à Solzhenitsyn, qui fait autorité dans le domaine d'ores et déjà, et Chalamov ne tarit pas d'éloges sur Une journée d'Ivan Denisovitch, la première œuvre publiée de Solzhenitsyn, pour tenter de définir, en fait, en résonnant avec d'autres, un art poétique de la littérature des camps. Donc une tâche ambitieuse, dont Chalamov, on le sait, se tire à la perfection avec sans doute beaucoup plus de rigueur que beaucoup d'autres intervenants dans ce domaine. La quatrième correspondance d'écrivain, en fait, que je voudrais signaler, là, il faudra prendre son élan, si vous voulez vous y plonger, parce que c'est la correspondance de Samuel Beckett. Donc on en est au quatrième tome qui vient d'être publié. C'est des tomes assez massifs, puisque l'ensemble du corpus de la correspondance de Beckett, c'est 15 000 lettres entre 1929 et 1989. C'est intéressant parce que Beckett, en fait, était contre, de son vivant, contre la publication de ces... De cette correspondance qu'il considérait effectivement lui comme privée. On est dans la zone grise où ça n'a pas vocation pour lui à faire partie de son œuvre littéraire. Et puis à la fois avec l'insistance de son éditeur, donc Jérôme Lindon, et puis l'âge venant, se disant après tout peut-être, pourquoi pas, si quelqu'un y trouve un intérêt, il a dit « oui, d'accord, je veux bien que ça soit publié après ma mort et uniquement les correspondances qui auront un intérêt littéraire ». Mais c'est pas lui qui a défini si ça avait un intérêt littéraire ou pas, et donc les éditeurs posthumes s'en sont un peu donnés à cœur joie, il faut bien l'avouer. Donc c'est un ensemble de correspondances qui est absolument passionnant. On y trouve de tout, toutes sortes de choses qui permettent évidemment une compréhension de la mécanique complexe et mobile d'une œuvre particulièrement singulière. On trouve des choses magnifiques sur son amitié littéraire avec son premier mentor, qui était James Joyce. Mais on trouve aussi des trucs assez drôles dans la façon dont ça a été édité, puisque d'une remarque d'une ligne, en fait, dans une lettre de Samuel Beckett qui dit qu'il s'est ennuyé, comme c'est pas permis, à un concert en 1931. Les éditeurs, donc à partir de cette ligne, consacrent 30 lignes à expliquer de quel concert il s'agissait, qui jouait, qui dirigeait. Donc il y a un petit aspect de surédition qui est assez fascinant en lui-même. Donc c'est la correspondance de Samuel Beckett, c'est un monument et dans lequel il faut évidemment se plonger si on apprécie, entre autres, évidemment, l'œuvre de Beckett sous ses formes les plus variées. Donc avant de passer aux choses un peu plus hybrides, c'est-à-dire des correspondances qui ne sont pas au départ des correspondances littéraires ou qui ne parlent pas de littérature, on va faire une brève pause musicale avec Love Letter. Thank you.
letter in my hand, a plea, a petition, a kind of prayer. Hope it does as I have planned. Losing her again is more than I can bear. Kiss the cold white envelope, press my lips against her name. 200 words we live in hope. The sky hangs heavy with rain. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go tell her. Wicked wind whips up the hill, handful of hopeful words. I love her and I always will. Sky is ready to burst. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. It all came out the wrong way. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go tell her. Rain your kisses down upon me. Rain your kisses down in storms. And for all who come before me in your slowly fading form. Out of my mind will leave me standing in the rain with a letter and a prayer whispered on the wind. Come back to me. Come back to me. Oh, baby, please come back to me.
Alors, quand on parlait de Saint-Jean-de-Perse, d'Albert Camus, René Char, de Varlam Chalamov ou de Samuel Beckett, on parle massivement d'une correspondance qui a un contenu littéraire ou artistique, c'est-à-dire des échanges portent, pas toujours totalement, mais en grande partie, sur des choses qui touchent à l'œuvre, en tout cas pour les parties qui ont été, bien entendu, éditées, que ce soit presque intégralement dans le cas d'Albert Camus, René Char, ou de Varlam Chalamov, Alexandre Solzhenitsyn et Nadia Jamal-Destam, ou que ce soit par sondage, par élimination, selon des règles plus ou moins claires, plus ou moins secrètes, chez Saint-Jean-de-Perse ou chez Samuel Beckett. Il y a une autre forme de correspondance qui ont été publiées, qui sont disponibles, que l'on peut lire, qui sont des correspondances non seulement privées, mais intimes, et notamment tout ce qui est autour des lettres d'amour, et qui deviennent pourtant, après le décès de leur instigateur, qui deviennent littérature. Alors, parmi les plus connues, probablement, et les plus intéressantes, il y a les Lettres à Milena de Franz Kafka, donc une correspondance très intense entre 1920 et 1923. L'histoire assez singulière, en fait, d'un amour, non pas d'un amour impossible, mais d'un amour qui se refuse, d'un, comme on appellera, y compris dans les lettres, un mal d'absence, donc entre Milena et Franz Kafka. qui aboutit à un certain nombre de confidences qui sont des confidences de nature littéraire, mais qui sont aussi des confidences sentimentales, des confidences sociales dans certains cas. Donc un matériau absolument passionnant, mais résolument intime. Dans le même ordre d'idées, mais allant d'une certaine façon encore plus loin, les fameuses lettres à Lou, de Guillaume Apollinaire, c'est la correspondance du poète avec Louise de Coligny-Châtillon, dont il aurait tant voulu être aimé comme lui l'aimait, de 1914 à 1918. Ce sont des lettres d'amour qui sont à la fois frivoles et désespérées, poétiques, érotiques. Elles incluent parfois un calligramme ou des petites choses, des petits cadeaux, en fait. On y parle effectivement beaucoup d'amour, d'érotisme, de choses que Guillaume Apollinaire souhaiterait pouvoir faire depuis son front, d'où il a écrit la majorité de cette correspondance. C'est poignant, c'est beau, c'est étonnant, bien entendu. On est dans le témoignage écrit, sans véritable arrangement, mais d'une très haute tenue littéraire. Et c'est vrai que ça en fait un texte à part entière, alors que c'était certainement pas l'intention ni de l'un ni de l'autre, en fait, quand ces lettres ont été écrites, donc entre 1914 et 1918. Le troisième exemple, qui est peut-être encore plus frappant et qui a beaucoup choqué au moment de sa parution, c'est les lettres à Nora, de James Joyce, parce que à partir de 1909, entre l'écrivain irlandais et son amour de toujours, femme avec qui il restera jusqu'au bout et même qu'il enlèvera quelque part à l'Irlande pour l'emmener en Europe avec lui, à partir de 1909, les échanges ont été extrêmement nombreux et extrêmement obscènes, crus, d'une crudité assez extraordinaire. Donc, de la part de Joyce, puisqu'on ne dispose pas des réponses de Nora, qui sont restées secrètes, soit ont été détruites. Mais si on lit entre les lignes, évidemment, quand James Joyce répond lui-même à ce qu'il a reçu entre-temps de la part de Nora, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle lui écrivait, elle, exactement sur le même ton. Donc sur un ton qui est pour le moins grivois, beaucoup d'humour, mais beaucoup de crudité. Là, on parle vraiment d'un jardin secret qui, a priori, autant qu'on le sache, n'avait aucune vocation à être partagé avec qui que ce soit, et qui pourtant l'a été, mais évidemment seulement à partir de 1975, donc bien longtemps après le décès de l'auteur et de l'autrice de ces lettres. C'est évidemment un monument de la littérature comme James Joyce. Entre 1975 et 1985, quand ces lettres ont été publiées pour la première fois, il y a eu plus qu'un parfum de scandale, puisqu'un bon nombre de lecteurs, de lectrices se sont offusqués, se sont dit « mais comment peut-on être à la fois un pareil génie littéraire et puis un écrivain aussi polisson, aussi acharné de sexe, de crudité, d'obscénité ?» Ça passe l'imagination, alors que évidemment on sait que non, ça ne passe pas l'imagination, que les écrivains ou les écrivaines sont des gens comme les autres par bien des aspects, mais c'est vrai que de le voir par écrit sous cette forme dense ramassée dans les lettres à Nora, ça donne vraiment quelque chose de très bizarre. Alors c'est à la fois très savoureux, très étonnant, et on retrouve une façon de gérer les coqs à l'âne, et bien entendu ensuite les exégètes sérieux ont pu aussi se servir des lettres à Nora pour y trouver dans la relation entre Nora et James Joyce tout un tas d'éléments en fait qui expliquent la genèse, la constitution et la forme que prend le personnage de Molly Bloom dans le Ulysse de James Joyce, bien entendu. On va ensuite passer aux fictions épistolaires elles-mêmes, mais avant ça, on va écouter quand même, après une love letter, une death letter. We'll be right back. troisième type de correspondance en littérature, les fictions épistolaires. Donc on a tous en tête, même si c'est pas du tout la première, hein, et que dès l'Antiquité, en fait, il y a eu des fictions épistolaires, certaines fort célèbres, mais surtout pour des Français, l'étalon, c'est évidemment Les Liaisons dangereuses en 1782 par Colliers de Laclos. Ce qui sert encore aujourd'hui souvent de matrice, de cadre, de référence pour organiser effectivement un matériau épistolaire et pour en faire une œuvre de fiction. Et en fait, dans ce domaine-là, je voudrais vous parler en fait de trois textes que j'aime beaucoup, qui sont tous les trois très différents les uns des autres, mais qui nous montrent bien à quel point la fiction épistolaire est quelque chose de vivant, d'actuel, d'extrêmement contemporain et qui permet, c'est une de ses grandes forces, hein, bien entendu, un jeu subtil qui n'a pas besoin de convoquer la farce en fait, mais qui permet de faire télescoper des éléments qui sinon resteraient disjoints grâce aux différents fils des correspondances. Donc le premier, c'est un roman qui est paru en 2015 aux éditions du Sonneur, qui est la collaboration entre Éric Bonargent et Gilles Marchand, qui s'appelle Le roman de Bolaño. Et le roman de Bolaño, ça démarre en fait avec un dénommé Pierre-Jean Kaufmann, qui est un ex-chauffeur clandestin de taxi gratuit à Paris, par ailleurs très largement amnésique, et qui découvre un jour dans sa voiture un livre abandonné par un de ses clients. Et ce livre, c'est Étoiles distantes. C'est l'un des premiers romans publiés par Roberto Bolaño en 1996. Et à l'intérieur de cette édition d'Étoiles distantes, il y a un simple papier qui porte les coordonnées d'un certain Abel Romero. Ce qui est curieux, puisqu'Abel Romero est censé n'être que le héros du roman en question, et donc ne pas avoir de coordonnées dans la vraie vie, bien entendu. Mais Pierre-Jean Kaufmann, à la fois un peu sous l'effet de l'alcool, il faut bien l'avouer, mais aussi de l'impulsion et de l'intuition, contacte Abel Romero, donc aux coordonnées qui figurent dans ce livre, et Abel Romero existe réellement, et se trouve être un ex-enquêteur de police chilien qui vit en retraite à Barcelone. Alors évidemment, ça rappelle quelque chose à ceux qui connaissent Roberto Bolaño. Et à partir de là, c'est le début d'une double quête, qui est à la fois une quête totalement improbable et absolument nécessaire, qui est nourrie par l'amnésie du Parisien et par l'hypermnésie du Chilien de Barcelone. Et donc, tout ce roman prend la forme d'un échange de lettres et de courriers électroniques entre les deux, et cet échange va nourrir en fait et dessiner ses propres buts en avançant. Alors, ce qui est vraiment fascinant, c'est que sans qu'on sache lequel, même s'ils l'ont avoué dans telle ou telle interview, il y avait un des deux auteurs donc qui connaissait parfaitement l'œuvre de Bolaño et l'autre qui ne la connaissait quasiment pas. Ce qui permet d'introduire tout au long du roman, par les échanges, une pédagogie extrêmement rusée, très agréable, et qui permet d'échapper complètement au piège des scènes d'exposition, des scènes documentaires, de l'information qui est donnée dans un roman et qui vient l'alourdir, peser. Là, en fait, ça se fait de façon extrêmement naturelle. Et ce qui est très beau, c'est que c'est un petit roman qui utilise donc des miroirs et des labyrinthes pour explorer, mine de rien, l'œuvre d'un auteur lui-même de miroirs et de labyrinthes. Et donc, il y a tout un travail sur la dissymétrie de l'échange entre les deux personnages et sur la façon dont la fiction et la réalité, depuis la toute première scène, donc quand ce Abel Romero, qui devrait être un personnage, devient un personnage à part, un être humain à part entière, jusqu'à la fin, en se demandant évidemment... qu'est-ce que fait la littérature avec le réel, et qui le fait en toute beauté. Donc c'est le roman de Bolaño aux éditions du Sonneur en 2015. Le deuxième dont j'aimerais vous parler, c'est La Toile de Sandra Lucbert, qui est paru chez Gallimard en 2017. Alors dans les références de La Toile, il y a de façon tout à fait officielle Les Liaisons dangereuses de Claude Allot de Laclos, si ce n'est que Sandra Lucbert a transposé tout cela d'une façon, et l'a ramifié surtout, elle l'a transposé aujourd'hui en fait, dans un univers qui est celui de start-up culturel très haut de gamme, de ceux qui font l'art contemporain, qui décident ce qui est hype, ce qui ne l'est pas. Donc une start-up numérique gérée d'une main de fer et avec beaucoup de talent par un couple de frères et sœurs ennemis, mais qui ne sont pas immédiatement, il ne faudrait pas y voir ni Merteuil ni Valmont. On s'aperçoit très vite, même quand on utilise ce fil conducteur des Liaisons dangereuses, que les personnages de La Toile, quand on croit discerner Merteuil, Valmont, Tourvel, Volanges ou Danceny, en fait on se trompe, ils sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus élusifs en fait que ça. Mais à travers travers cet échange, alors qui prend pas seulement la forme de lettres, Sandra Lucbert a fait vraiment de Liaisons dangereuses 2.0 et au-delà, parce que elle a saisi, tenté de saisir, et très très souvent parfaitement réussi, la différence entre justement un email privé, un email en copie à tous, un message sur un forum, un instant de messaging, un SMS, et en fait tous ces vecteurs qui ont des usages distincts, des possibilités distinctes, et qui ne créent en permanence des asymétries de communication, sont mis à contribution pour faire avancer ce roman. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois on est effectivement dans la technologie de communication la plus contemporaine et la plus virtuelle, on est dans des choses extrêmement éthérées, et en même temps on est renvoyé à la poésie élégiaque antique par des détours que je vous laisserai découvrir, mais qui ne sont ni artificiels ni du tout enfin ni inutiles, qui au contraire nourrissent la façon dont l'intrigue avance, sachant que cette fuite numérique, en fait, cette toile qui se crée, s'ancre aussi dans des grandes manifestations, elles tout à fait physiques, hein, qui sont, puisqu'on parle des manifestations en Turquie à l'époque, de façon extrêmement concrète. Et donc la toile est un très très beau roman, hein, très très grand roman, peut-être un des romans les plus intelligents qui est sorti ces deux ou trois dernières années. Et pour terminer, j'en prendrai un complètement différent, à propos d'auteurs dont on a déjà parlé en fait sur cette antenne. Donc c'est Le meurtre au poisson rouge de Andrea Camilleri et Carlo Lucarelli. Alors vous vous souvenez bien sûr, Andrea Camilleri, on en a parlé avec Serge Quadrupani notamment ici. C'est entre autres, parce que c'est pas du tout seulement ça, mais c'est le créateur donc du personnage de Salvo Montalbano, ce commissaire de police sicilien, amateur de bonne chair, amateur de femmes aussi, qui en fait au fil des enquêtes gère les enquêtes, la situation politique, économique et sociale de l'Italie en général et de la Sicile en particulier, mais gère aussi en fait son propre regard face à la vieillesse qu'il sent venir peu à peu, enfin en fait depuis ses 30 ans il la sent venir, mais qu'il préoccupe au fil des romans. Et donc ce personnage de Salvo Montalbano, donc qui est un géant de la littérature policière et même de la littérature au sens large italienne, et d'un autre côté donc Carlo Lucarelli, lui on en avait parlé également, qui a créé différents types de personnages, mais notamment donc une enquêtrice qui s'appelle Grazia Negro, qui est une inspectrice de police de Bologne dans l'œuvre de Lucarelli, un personnage superbe. Et Andrea Camilleri et Carlo Lucarelli, donc en 2010, quand ils ont fait Meurtre au poisson rouge, ils se sont intensément amusés, puisque ils avaient cette envie d'écrire ensemble un roman, mais leurs emplois du temps étaient rigoureusement incompatibles, complètement surchargés entre toutes leurs activités. Alors chez Camilleri, notamment en termes de production télévisée, d'animation d'émissions, chez Lucarelli, un gros travail également du côté des adaptations, de feuilletons. Donc impossible de se mettre, même de prévoir des rendez-vous pour travailler ensemble. Donc ils se sont dit, ben, on va le faire par correspondance, donc ce roman. Et bien entendu, l'idée à charmer, c'est de faire l'enquête par Montalbano depuis la Sicile et par Grazia Negro, pardon, depuis Bologne, par correspondance également. Et donc, au bout d'un moment, entre les blagues tirées du réel que se font Camilleri et Lucarelli et celles que se font les deux personnages, on y perd la tête, on s'amuse énormément. Je crois que c'est un des cas où deux auteurs sont morts de rire tout le long et nous le font partager, y compris d'une façon très sérieuse. Alors c'est aussi un roman qui est très court, mais qui demande quand même une certaine attention. Parce que justement dans les échanges entre les deux personnages, il y a plein de clés, on nous donne les choses telles quelles, hein. Ce sont des lettres, des emails, donc il n'y a pas de couche d'interprétation autre que celle que nous on va y mettre. Et je vais donc conclure l'émission en vous lisant un de ces échanges très bref, et vous pourrez méditer en fait sur la dernière phrase et voir à quel point l'ensemble de ce roman est beaucoup plus retors qu'il n'y paraît. À l'inspecteur chef Grazia Negro, brigade criminelle, question de Bologne. Cher Grazia Negro, j'ai bien reçu ta lettre et les pièces jointes. J'hésite beaucoup à te donner un coup de main, car tu me parais du genre à chercher des ennuis. Et les ennuis, c'est contagieux. Je ne parle pas du fait que tu veuilles mener une enquête qui t'a été expressément interdite par tes supérieurs. Cela, éventuellement, te rendrait sympathique à mes yeux. Non, je veux parler du fait que tu veuilles m'entraîner dans une espèce d'enquête privée et non autorisée en me le demandant sur une feuille à en-tête de la question de Bologne et surtout en adressant la lettre au commissariat de Vigata. Et de fait, la lettre a été ouverte par Cattarella, qui m'a téléphoné à Marinella pour me dire qu'il y avait un nègre qui avait tué un certain Rossi, dit Poisson Rouge. Et tu voudrais garder l'affaire sous le boisseau ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Et puis tu ne savais pas que tu ne pouvais pas envoyer copie de ces documents à une personne étrangère à l'enquête, vu qu'ils sont couverts par le secret de l'instruction ? Tu as perdu la tête, jeune fille. La seule chose qui tient en partie dans ce que tu m'as envoyé est la dernière page, parce que écrite sur du papier sans en-tête et signée de la seule initiale de ton prénom. En partie seulement, parce que tu as mal fait de l'écrire de ta main. Il aurait mieux valu que tu la tapes à l'ordinateur. N'importe quelle expertise graphologique mènerait jusqu'à toi. Alors en conclusion, à ta demande de collaboration, je me trouve contraint de répondre par la négative. Je suis désolé, mais je ne te fais pas confiance. Je t'avertis que j'ai brûlé les documents joints dans la crainte que Cattarella les renvoie à la question de Bologne. Je sais que je t'ai déçu, mais je n'y peux rien. S. M. Pourrais-je avoir ton adresse personnelle ? Tu peux m'écrire à S. M. Marinella Vigata.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.